journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le procès d'un cluster géant. La justice autrichienne se penche aujourd'hui sur le scandale Dischgöl. Des milliers de touristes européens contaminés par le Covid en mars 2020 dans une station de ski. Certains en sont morts. Leurs proches demandent des comptes. Nous serons à Vienne. Quand la candidature d'Anne Hidalgo sème le trouble au PS, François Rebsamen, pilier du parti, tire à boulet rouge sur sa famille politique. Le maire de Dijon réclame un débat sur le programme présidentiel. Dans ce journal aussi, les fabricants de jambon en guerre contre Yuka, l'application nutritionnelle, et du théâtre. Jean-Michel Ribes se moque gentiment des Français dans sa dernière pièce.
Et à 7h45, ce sera le débat éco, Thomas Piketty et Dominique Seux, autour des propositions économiques des différents candidats à la présidentielle. Que peut-on en penser ?
France Inter.
C'était Alexis l'un des plus gros foyers de contamination Covid au tout début de l'épidémie.
Oui, nous sommes début mars 2020. Les contaminations se multiplient alors à vitesse grand V au cœur du Tyrol autrichien. Station de ski Dischgöl, très prisée de la clientèle internationale. Au total, 6000 personnes originaires de 45 pays affirment qu'elles ou leurs proches y ont été infectés à ce moment-là. Eh bien, ce cluster se retrouve devant la justice aujourd'hui en Autriche, car les autorités sont accusées d'avoir tardé à réagir. Un tribunal examine la première plainte d'une longue série, celle de la veuve d'un homme mort du Covid après son retour d'Ischgöl. Isorias l'a rencontré.
Dès début mars, plusieurs cas positifs sont rapportés aux autorités. Il faudra pourtant attendre le 13 pour que le chancelier Sébastien Kurz décrète la mise en quarantaine de toute la zone d'Ischgöl. Comme des milliers de touristes, Hannes Schopf quitte alors précipitamment la station, raconte sa veuve Zinglinde Schopf.
Le départ a vraiment été chaotique, car personne n'a expliqué combien de temps il serait possible de rester dans la vallée. Il n'y avait plus de taxi disponible. Hannes a donc pris le bus. Il y avait tellement de monde à l'intérieur qu'on ne pouvait même pas tomber par terre. Vous devez vous imaginer que le 13 mars, il skiait encore à Ischgöl et que le 10 avril, il était mort. C'est horrible.
Peter Kolba de l'association VOSVO qui accompagne les plaignants accuse les autorités d'avoir fait passer l'économie avant la santé des touristes.
Les autorités ont réagi trop tard et de manière insuffisante. Tout cela en raison de considérations économiques, car il s'agissait de gagner de l'argent encore quelques jours. Beaucoup d'argent, car Ischgöl est une station chère.
Les autorités du Tyrol affirme au contraire que les décisions ont été prises en toute bonne foi sur la base des connaissances de l'époque. Une dizaine d'autres plaintes individuelles ont d'ores et déjà été déposées, selon Peter Kolba. Il estime que 500 pourraient l'être au total et envisage également une plainte en action collective. Vianne Isorias, France Inter.
Et la plaignante qui témoignait dans ce reportage réclame 100 000 euros de dommages et intérêts à l'État autrichien. Concernant la situation sanitaire actuelle en France, toujours du mieux, 8120 cas de Covid recensés hier contre 11 000 il y a une semaine. En Martinique, le confinement doit être assoupli à partir de lundi, les déplacements autorisés jusqu'à 10 km contre 1 km aujourd'hui. Elles avaient été oubliées du Ségur de la Santé et des revalorisations qui vont avec. Le gouvernement fait un geste pour les sages-femmes, une forme de rattrapage. Elles recevront à partir de janvier une prime de 100 euros net et une hausse de salaire d'environ là aussi 100 euros brut par mois. Bien mais insuffisant selon les syndicats de la profession.
Il est 7h33, une nouvelle journée éprouvante pour les victimes au procès des attentats du 13 novembre.
La cour d'assises spéciale doit entendre aujourd'hui les enquêteurs chargés des premières constatations au Bataclan ce soir-là. Hier déjà, l'après-midi a été bouleversante avec l'analyse des policiers intervenus au Stade de France et sur les terrasses parisiennes. Ils ont montré des premières images difficiles, Sophie Parmentier.
On a vu des kamikazes du Stade de France exploser, des boules de feu sur le grand écran de la salle d'audience. Puis, un enquêteur a lancé deux vidéos dans la pizzeria Casa Nostra et devant la terrasse du café La Bonne Bière. Trois terroristes ont surgi d'une Seat, ont tiré à la Kalachnikov. On a vu les flammes sortir de leurs fusils d'assaut et des victimes s'effondrer sur le trottoir. Dans la salle d'audience, sur le banc des parties civiles, Thomas, survivant du Bataclan, habitant du 11e arrondissement de Paris, est sous le choc de ces images glaçantes.
Là, effectivement, tout à l'heure, j'étais un peu effondré. En fait, aujourd'hui, paradoxalement, alors que je suis victime au Bataclan, cette scène de la Bonne Bière, qui est en bas de chez moi, en bas de la rue du Collège des Enfants, m'a vraiment, ça m'a retourné. Et donc, j'avais effectivement jamais vu des terroristes sortir d'une voiture, tirer à la calache, avec l'image horrible qu'on voit là, le monsieur qui roule. Bon, c'est épouvantable.
Cet après-midi, la cour visionnera sur grand écran quelques images de la fosse du Bataclan où un troisième commando de terroristes a fait 90 morts. La cour diffusera aussi une bande sonore, les 30 secondes du début de l'attaque. De nombreux psychologues seront dans la salle aux côtés des parties civiles.
Sophie Parmentier au procès du 13 novembre 2015. Qui organise le financement de la pré-campagne d'Éric Zemmour ? Révélation ce matin de la cellule investigation de Radio France. Deux hommes en particulier sont à la manœuvre. L'un est patron de start-up, passé par la banque Rothschild. L'autre travaille toujours chez JP Morgan. Notre enquête complète dans le journal de 8h et sur franceinter.fr. C'était une formalité. Olivier Faure est réélu à la tête du Parti Socialiste. Le congrès du parti qui doit ratifier officiellement ses résultats ce week-end à Villeurbanne. Congrès boudé par Anne Hidalgo, la candidate à la présidentielle, dont la façon de faire commence à agacer certains au PS. En témoigne cette violente charge de François Rebsamen. Le maire de Dijon annonce dans l'IB qu'il quitte la présidence de la Fédération des élus socialistes. Il dénonce l'absence de débat, notamment sur le programme présidentiel. Antoine Gignot.
Impossible, lance François Rebsamen, de continuer au sein d'un parti sectaire, léniniste, où le débat n'existe plus. L'attaque vise directement Anne Hidalgo et son équipe, candidate, dit-il, sans que les militants aient leur mot à dire, ni sur le programme, ni sur les thèmes de campagne, ni même sur la communication. Annoncer d'emblée qu'on va doubler le salaire des enseignants, c'était une erreur, s'étrangle le maire de Dijon. Personne n'y croit. Au-delà, c'est surtout le manque de place pour des voix dissonantes que François Rebsamen met en avant. « J'ai été excommunié, dit-il, lorsque j'ai salué cet été le travail d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. » Mais ce que l'ancien ministre du Travail définit comme un plaidoyer pour une social-démocratie et un soutien à Stéphane Le Foll, candidat alternatif du PS, le clan Hidalgo l'interprète comme un mauvais baroud d'honneur. François Rebsamen commente un cadre du parti n'avait aucune chance de conserver son poste de patron des élus socialistes, alors il essaie de se vendre à la Macronie. Quand on a été au gouvernement, on n'a qu'un rêve, c'est d'y retourner.
Les précisions d'Antoine Gignot. Il a façonné une nouvelle géographie de la France, rapprochant des villes, en isolant d'autres, révolutionné le transport pour 100 milliards d'investissements au total. Le TGV fête ses 40 ans. Emmanuel Macron doit les célébrer ce matin, gare de Lyon, à Paris. Pour l'occasion, le chef de l'État dévoilera la maquette grandeur nature du TGV du futur. Pas vraiment plus rapide, mais plus confortable et plus écolo. Il doit être sur les rails en 2024. Et avant d'acheter votre sandwich jambon-beurre au wagon-bar, vous avez peut-être pris l'habitude de scanner le code-barre sur l'application Yuka, très prisée des consommateurs. Elle permet de tout savoir sur la qualité nutritionnelle des aliments. Mais Yuka se retrouve en pleine bataille judiciaire contre les industriels de la charcuterie qui s'estiment dénigrés. L'appli a déjà été condamnée deux fois ces derniers mois. Un troisième jugement est attendu aujourd'hui à Brive-la-Gaillarde, Agnès Soubiran.
C'est la Fédération des industriels charcutiers traiteurs qui représente 300 entreprises, en majorité des PME, qui la première a lancé la bataille judiciaire, ulcérée par les notes basses de certains de ses produits en raison de la présence d'additifs nitrés présentés par l'application comme cancérigène. Fabien Castagnier, délégué général de la Fédération.
Les nitrites sont autorisés par la réglementation européenne, ils sont même autorisés partout dans le monde, et même obligatoires, par exemple en Italie et en Allemagne, parce qu'ils ont un rôle pour éviter le développement de bactéries pathogènes. En France, nous nous sommes volontairement imposés un seuil en nitrite qui est de 40% inférieur à la teneur réglementaire européenne.
Ces nitrites, qui donnent aussi sa couleur rose au jambon, sont effectivement autorisés, mais Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, dénonce un combat d'arrière-garde et met en avant la santé des consommateurs.
Si je caricature, je prends la cigarette ou l'alcool, ce sont des produits qui sont autorisés, on sait bien aujourd'hui qu'ils ne sont pas sans danger. Et sur le sujet des additifs, c'est la même chose. Le dioxyde de titane, jusqu'à l'année dernière, il était autorisé en France. On a demandé son interdiction, il a fini par être interdit. Et on est tous persuadés à Yuka que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas quand, mais les nitrites finiront par être interdits, ça c'est sûr.
De grandes marques de jambon comme Fleury Michon, Herta ou Cochonou proposent d'ailleurs déjà des gammes de jambon sans nitrites.
Agnès Soubiran, service économie de France Inter, et Yuka a déjà fait appel des deux premières condamnations. À l'étranger, un marathon électoral commence en Russie. 3 jours de vote pour les législatives. Un scrutin presque sans opposition. Les partisans d'Alexei Navalny en ont ont été bannis par le pouvoir russe. Premier résultat attendu dimanche soir. En Californie, les autorités doivent désormais rivaliser d'imagination contre les incendies qui n'en finissent pas. Pour protéger les sublimes séquoias géants, les pompiers les recouvrent en ce moment d'aluminium, des feuilles d'aluminium qui entourent la base des troncs de ces arbres, pour certains vieux de 3000 ans, alors que de nouveaux feux menacent dans cet état de l'Ouest américain.
Et si vous êtes adepte de l'autodérision, rendez-vous au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Oui, avec la nouvelle pièce du directeur du lieu, Jean-Michel Ribes, qui ne nous épargne pas. Il croque la société française dans une comédie, J'habite ici, une comédie écrite pendant les confinements successifs. Et Stéphane Capron, on renoue là avec les grandes heures des Brèves de comptoir.
Je n'aime pas le théâtre.
Le ton est donné. Dès la première réplique, Jean-Michel Ribes n'épargne personne dans cette pièce qui se déroule au pied d'un immeuble. Il y dresse un portrait de la société française. Sa plume est grinçante, mais reste bienveillante.
C'est une espèce de petite mosaïque sur l'époque et ses exagérations, avec cette espèce de fascisme rampant qui est partout et qui est accepté, pas accepté, avec ses personnages ou en couleur, mais en même temps jamais méprisés. C'est une espèce de valse un peu dingue, mais quand même qui représente la danse de notre époque.
Tu es amoureux d'un policier ?
Je crois, oui. Il encadre nos manifestations.
Un policier ? Mais ton père va être fou de joie ! Étienne, Étienne ! Tu vas avoir un gendre policier !
Dans J'habite ici, on croise des véganes, des racistes, des gays bien dans leur peau, des bourgeois coincés, une ange gardienne qui veille sur tous les démons de son immeuble. Jean-Michel Ribes a écrit une comédie à sketch, douce amère. Il y a à la fois de la férocité, mais aussi de la tendresse. Et comme le directeur du Rond-Point aime toujours surprendre, il a même glissé du rap dans son spectacle.
J'habite ici de Jean-Michel Ribes, c'est jusqu'au 17 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis en tournée partout en France, voilà, pour se moquer de nous-mêmes, ça fait pas de mal.
Ça fait du bien même. Alexis Morel, merci, la politique à suivre.